Alone.
Page à page, l'émission du livre, proposée et présentée par Claire Ambille.
Bonjour et bienvenue dans votre émission Page à page, où nous nous retrouvons comme chaque jeudi de 9h30 à 10h sur Radio Occitanie 98.3. Aujourd'hui, je reçois Anne Cameron. Bonjour Anne.
Bonjour Claire.
Vous êtes comédienne.
Oui, comédienne et metteur en scène.
Voilà, les deux. Et donc, vous allez nous parler un peu de votre métier et également de votre activité de lectrice dans différents lieux de la région toulousaine, on va dire, pour faire large.
Oui, même au-delà.
Même au-delà, oui. Tout à fait. Donc, peut-être on va commencer par votre parcours, vos débuts de comédienne.
Oui, va-t-on avoir le temps en une demi-heure? J'en doute fort.
Bon, on va essayer de faire...
En résumé, très très bref, je suis arrivée à Toulouse il y a une dizaine d'années. J'étais à Paris avant, et avant ça j'étais à Londres. Voilà, donc j'ai un parcours un peu cosmopolite. Étant d'origine britannique par ma mère... je parle donc les deux langues. J'ai fait le cours Simon à Paris et une école de théâtre en Angleterre. Voilà, donc j'ai une formation bilingue et biculturelle, disons.
Oui, ça
D'approche pour le théâtre et pour le texte. Et j'ai fait essentiellement donc ma carrière de comédienne à Paris, dans la région parisienne, avec des incursions en Vendée, jusqu'à ce que, même de sérieuses incursions, puisque nous avions monté un spectacle qui s'appelait « Quand j'avais 5 ans, je m'ai tué ».
Ça remonte,
c'est un livre qui avait eu beaucoup de succès.
Oui, tout à fait.
Et qui avait été adapté au théâtre et qui avait très, très bien marché, puisque le livre aussi avait très bien marché.
Oui, exact,
et
oui.
Nous avons, en fait, tourné ce spectacle pendant plus de 2 ans.
Oui.
Dans toute la France, nous l'avons joué à Paris. Il a commencé en Vendée. Ensuite, il y a eu... dans mon parcours, il n'y a pratiquement que des œuvres contemporaines, je dirais, en tant que comédienne.
Mais vous n'avez pas fait les grands classiques
Non, jamais. Je ne dois pas avoir une tête à ça.
Oui, non, mais c'est très bien, hein, contemporain.
Ensuite, j'ai donc joué dans un certain nombre de pièces de théâtre à Paris même. Des créations, beaucoup de créations d'œuvres d'auteurs contemporains, tout en faisant de la radio. J'ai travaillé pas mal à la radio pour France Culture. Et là, j'ai déjà fait beaucoup de travail sur la lecture à haute voix, puisque, comme vous le savez, ou peut-être vous ne le savez pas, mais à la radio, aussi bien les dramatiques, comme on appelle ça, que les lectures de livres... se font avec le papier sous les yeux.
Yeux, avec le micro
On n'apprend pas le texte on le fait. C'est d'ailleurs toute une technique qui s'apprend.
Oui, vous l'avez apprise, vous, en Angleterre
En Angleterre, cette technique. Ça m'a été bien utile aussi après.
C'est une technique très, très spécifique.
À ma connaissance, la lecture à haute voix pour la radio, c'est une chose. La lecture à haute voix devant un public, c'est encore autre chose. Mais il y a des choses en commun.
Oui.
Et c'est vrai que dans la formation des comédiens en France, à ma connaissance, peut-être qu'il y en a des formations. Je crois que c'est plutôt dans la formation continue qu'on le trouve. Mais dans les formations initiales, il n'y a pas beaucoup de formation à la lecture à haute voix.
Ils apprennent pas, on leur apprend pas en fait à lire à haute voix.
Et c'est assez étonnant d'ailleurs, parce que c'est quelque chose qui est très très utile, y compris pour faire une audition.
Et oui.
Quand on fait une audition, on vous le donne souvent le texte le jour même ou la veille, et on vous dit allez-y. Et les Anglais sont extrêmement forts pour ça. J'avoue que j'ai été dans un centre, il n'y a pas très longtemps, qui est un centre de formation continue pour les comédiens en Angleterre, donc qui ont déjà eu leur formation initiale. Et il y a certains cours qui sont des cours de lecture à haute voix, soi-disant. Mais en fait, c'est pas du tout... eux, ils ont déjà dépassé le stade complètement de la technique de la lecture à haute voix. C'est des cours d'interprétation.
Ah oui, on leur donne un texte et...
Ils arrivent à interpréter un texte complètement. Bon, je fais partie un peu de cette catégorie. Je dis « il », j'en fais partie oui. aussi, quoi. Voilà, donc j'ai travaillé à France Culture, pas mal, souvent pour des auteurs anglo-saxons, mais qui étaient en traduction française, parce que j'avais un metteur en scène, réalisateur de radio de prédilection qui me faisait beaucoup travailler. Mmh. Et puis, c'est le lot de tous les comédiens, un peu de radio, beaucoup de théâtre si on a de la chance, parce que c'est ce qu'on veut faire le plus.
Oui, bien sûr. Et donc, de la lecture, après, donc, vous avez trouvé des lieux qui vous accueillent, votre
alors
compagnie.
Alors ça a pris de l'ampleur, en France, en tout cas, parce que j'en avais fait un petit peu, pendant ma formation initiale en Angleterre, j'avais, en fin de parcours, proposé un montage littéraire que j'avais tourné dans des écoles, un montage littéraire de poésie, thème. Et j'avais été fortement encouragée en ça par la prof de poésie, parce que donc nous avions des cours pour la radio et nous avions des cours pour le dire poétique aussi.
D'accord, oui, bien sûr.
Ce qui manque également beaucoup dans la formation initiale en France, à mon avis.
Ils font pas de...
ils apprennent pas à lire de la poésie.
Oui,
alors, il y a des comédiens qui sont formidables pour dire des poèmes, mais il faut que ce soit un peu inné, quoi. Voilà.
Oui, on leur a pas appris spécialement.
Non. C'est pas vraiment, j'ai pas le souvenir. En tout cas, moi, quand j'étais au cours Simon, je proposais des poèmes de temps à autre. J'étais à peu près la seule.
Ah, d'accord. Oui, c'est vrai que la poésie, bon, c'est
particulier, c'est autre chose.
Il y a peut-être des gens qui sont hermétiques aussi à la poésie, qui ne perçoivent peut-être pas la magie de la poésie. Hein, aussi.
C'est le cas, je dirais. Alors là, on rentre dans un débat culturel. C'est le cas à l'heure actuelle en France. Mm-hmm. Mais c'est le cas presque, je dirais, pour le théâtre aussi. C'est-à-dire que c'est réservé à un public très restreint. C'est pas du tout le cas en Angleterre. Bon, en Allemagne, je sais pas quelle est la situation, mais je parle de ce dont
je connais le mieux.
En Angleterre, il y a d'abord un public très large pour le théâtre contemporain, ce qui n'est pas le cas en France. Dire que quand on regarde ce qui était à l'affiche, j'étais à Londres le week-end dernier, à l'affiche, il y avait plein de pièces d'auteurs contemporains, j'en ai vu une pièce, qui était d'ailleurs de très 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 bon niveau, dans le West End, c'est-à-dire dans le théâtre privé. Là, c'était plutôt entre les deux, c'était entre théâtre privé et théâtre d'art et d'essai. Et pour la poésie, il y a un public plus restreint que pour le théâtre, mais quand même
mais qui
très
existe,
large.
Voilà, qui existe,
il y a des tas de
large.
Festivals de littérature. Il y a des tas de prix qui sont alloués chaque année. Il y a des tas de magazines sur la poésie contemporaine qui sont extrêmement... je dirais pas, ils sont pas vendus peut-être à des milliers et des milliers d'exemplaires, mais enfin, ils sont vendus. Et il y a toute une presse pour la poésie. Il y a quelques vedettes même dans la poésie contemporaine.
Oui, c'est sûr qu'en France, on manque un peu de...
Il n'y a pas de vedettes.
D'événements comme ça.
Il n'y a pas non plus d'équivalent de ce qu'était Prévert, par exemple, à l'heure actuelle. Bon. Voilà.
Donc il y a quand même le livre en fête qui est quand même un peu.
Alors lire en fête, c'est quelque chose de récent, oui, qui
en France,
qui encourage la poésie. Non, c'est plutôt le printemps des poètes qui encourage la poésie.
D'accord.
Lire en fête, c'est pour le roman et la nouvelle.
Sensibiliser, voilà, le
roman
gens
et la
lecture.
Nouvelle.
Voilà, bon, c'est déjà.
Et la lecture en général.
La lecture. Oui. Ouais.
Alors je
pense que
pas
les Français
les
peut-être ne lisent peut-être pas assez.
Oui, je connais pas les chiffres. Alors là, de comparaison entre la France et l'Angleterre sur les gens qui lisent. Je pense que les romans sont plus populaires en France.
Oui, sans doute, oui.
En tout cas, que les autres formes de littérature. Et beaucoup d'auteurs se sont réfugiés dans le roman.
Et oui, bah oui.
Voilà.
C'est ça qui,
le
qui
roman
fonctionne bien.
Et la nouvelle, voilà. Peut-être, aussi. Alors, ce qui, moi, me pose problème pour la lecture à haute voix, si je veux prendre des auteurs francophones, parce que adapter un roman à une lecture de trois quarts d'heure ou une heure,
c'est pas évident.
C'est énormément de travail.
Ah oui, oui. Il faut le réduire. Ça, faut
c'est
le,
presque
faut
un
le...
travail d'écriture de
bah
scénario.
Oui, de réécriture,
voilà.
Ouais.
Sans trahir l'auteur, et
oui,
etc. Oui. Bon. Bon, les nouvelles, c'est beaucoup plus facile parce que on prend une nouvelle en entier, on n'y touche pas et on la lit en entier. Voilà.
Les poésies, pareil, on prend les poèmes.
La poésie, c'est déjà plus compliqué parce que si on veut vraiment bien faire les choses, il faut lire plusieurs recueils, choisir les poèmes dans plusieurs recueils.
En février, il y avait eu à la médiathèque de Toulouse une lecture de poèmes de Gabriela Mistral et
Pablo
Neruda. Donc, c'est des poèmes d'amour d'ailleurs.
Alors, il y avait les poèmes d'amour d'un côté. Et puis, il y avait des extraits du chant général
de Pablo Neruda
de l'autre. Mm-hmm. Oui, ça m'a demandé pas mal de travail de préparation. même si je n'avais pas énormément de matériaux pour Gabriela Mistral.
Oui, c'est vrai qu'on connaît plus Pablo Neruda que Gabriela Mistral.
Oui.
Pourtant, elle a fait pas mal de choses, Gabriela Mistral.
Oui, oui, absolument. Elle est très connue en Amérique latine.
Mm-hmm.
Voilà.
Oui, presque elle autant d'ailleurs que Pablo Neruda là-bas.
Apparemment, elle est enseignée. C'est ce que m'avait dit un Chilien que j'avais croisé à un événement donc en dehors de la région, dans l'Hérault, où nous sommes allés faire cette lecture au mois de mai. Et il m'avait dit qu'ils apprenaient certains poèmes de Gabriela Mistral à l'école.
Ah oui, ouais, ouais. Ouais, donc c'est effectivement, c'est une figure quand même de proue
de
son pays.
Elle représente quelque chose, d'autant plus que c'était la première femme, je crois, à avoir un prix Nobel
tout à fait.
En Amérique latine. Et aussi, elle était très active dans le mouvement social.
Elle était institutrice, je crois.
Oui, elle était dans l'éducation.
Oui.
Elle a même été, je ne veux pas dire de bêtises parce que je ne connais pas par cœur sa vie, mais elle a été responsable de l'éducation dans son pays à un moment donné.
Ouais. Oui, elle avait un rôle assez important auprès des enfants au niveau de l'éducation.
Oui, alors elle a écrit beaucoup aussi pour la défense des enfants abandonnés,
tout à fait.
Etc.
Ah, ouais. Donc, on va peut-être continuer, si vous voulez bien, donc en disant quand même que votre compagnie donc de théâtre s'appelle Autremot.
Oui, alors la compagnie Autremot a commencé à exister en même temps sur le papier et au TNT il y a 5 ans, puisque en fait, elle a été créée à l'occasion de 1000 milliards de poèmes. Il y a 5 ans, au mois de mai, en 2000, organisé par le TNT.
D'accord.
Et, excusez-moi, je donnais j'ai ma voix du matin. Je donnais faisais des ateliers, justement, sur la lecture de poésie.
Ah, d'accord.
Pour des amateurs, depuis 2 ans, avec Solange Oswald et Isabelle Luccioni, on était 3 à animer ces ateliers. Et au bout de ces 2 ans, à l'occasion de... J'ai vraiment un chat dans la gorge.
Ah. Je vais boire un petit peu de... Voilà.
Bon, à l'occasion...
C'est pas évident.
À l'occasion de ce 1000 milliards de poèmes, le TNT nous a passé commande d'un montage littéraire. Voilà. Autour de la poésie, avec carte blanche sur ce que nous
sur le choix de, des auteurs.
Et moi, j'avais choisi des poètes français, anglais, allemands de la Première Guerre mondiale.
Ah,
et j'ai fait un montage avec aussi quelques lettres de Poilu. Et j'avais demandé à Frédéric Aubry, Christian Marc et Christian Rizou.
Qui sont d'autres comédiens qui
sont
partis.
Qui sont des comédiens avec qui je travaille depuis 5 ans. Donc,
depuis la création d'autres mots.
Voilà. Qui était donc dans ce projet initial avec Mourad Malawi également, qui travaille avec nous aussi depuis 5 ans. Qui avait fait des éléments de décor, même s'ils étaient extrêmement limités, puisque nous étions dans le studio du TNT et que nous voulions privilégier le texte. C'était chose essentielle. Voilà. Et ça, ce n'était pas de la lecture.
Non.
C'était un spectacle.
D'accord.
Avec juste de la musique.
Voilà, un spectacle. Mais voilà, un montage littéraire avec un spectacle autour, quoi.
Voilà.
Une mise en scène.
Et il y avait Blaise Sandrard, Apollinaire pour les Français. Il y avait Rilke pour les Allemands. Il y avait Gottfried Benn. J'en oublie un, c'est pas grave.
Les Anglo-Saxons.
Il y avait Wilfred Owen, qui est un des plus grands poètes qui est mort à 20 ans. Justement à la fin de la guerre, enfin, Wilfred Owen et Siegfried Sassoon. Voilà, donc ce spectacle, on l'a tourné un petit peu ensuite dans la région. Et puis nous avons eu, donc l'année d'après, nous l'avons repris à la CAF Poésie, à différents lieux. Et c'est là que j'ai eu l'idée de faire cette tentative, en tout cas cette expérience qui a fini par très très bien marcher.
À la médiathèque
Du tout à la médiathèque, puisqu'elle n'existait pas.
C'était
C'était en 2002.
Oui, c'était en juin 2004.
C'était en 2002. C'était en 2001-2002. Le premier cycle de la parole au texte, qui était centré sur Tchekhov, des récits de Tchekhov. Et j'ai demandé un peu de subventions un petit peu partout. Nous avons obtenu la région, la mairie de Toulouse et le conseil général de Haute-Garonne. Voilà, donc la première année, ça a tourné un petit peu. Ensuite, la médiathèque départementale de Haute-Garonne nous a aussi demandé cette lecture.
Et on peut dire que votre compagnie donc a plusieurs,
vous travaillez
avec plusieurs,
arc.
Voilà, plusieurs cordes à son arc, et vous travaillez en partenariat donc avec plusieurs organismes.
Bien sûr, oui, avec autant d'organismes qu'on peut. Oui.
Oui, bien sûr. Ce que je vous propose peut-être, Anne, c'est de faire une petite pause avec Laura Pausini, une chanteuse italienne, vous connaissez peut-être. Et donc on se retrouve de suite après et on continue donc à parler de tout ceci.
Non ho più paura di te, tutta la mia vita sei tu, vivo di respiri che lasci qui, che consumo mentre sei via, non posso più dividermi tra te e il mare, non posso più restare ferma ad aspettare. Io che avrei vissuto da te nella tua straniera città, sola con l'istinto di chi sa mai, sola ma pur sempre con te, non posso più dividermi tra te e il mare. Posso più sentirmi stanca di aspettare.
Baby
adesso. Ma tutto questo a me non basta, adesso cresco. No, amore, no, io non ci sto. O ritorni o resti lì, non vivo più, non sogno più. Ho paura, aiutami.
Amore, no, ti credo più. Ogni volta che vai via, mi giuri che è l'ultima. Preferisco dirti addio.
Page à page, Claire Ambille.
Poupoupidoup. Nous revoici avec Anne Cameron, donc comédienne et qui fait de la lecture à haute voix, donc notamment à la média, on va peut-être dire à la médiathèque de Toulouse, entre autres bien sûr, hein, mais
oui.
C'est régulier, c'est une fois par mois.
Alors,
pour cette année.
C'est vrai que la lecture à haute voix, donc une des deux activités que nous avons, à part le théâtre. Je voulais quand même dire que nous avons monté Le Gardien de Harold Pinter au Théâtre du Pavé l'année dernière, que nous le tournons actuellement dans la région,
d'accord.
Et que j'ai un autre projet de théâtre pour l'année prochaine, mais tant que c'est pas finalisé, j'en parlerai
oui,
pas.
Oui, bah, vous reviendrez voilà. Nous en parler.
Oui, mais ça rentre pas dans le cadre de la
oh,
lecture.
Oh, mais ça fait rien.
Et pour la lecture à haute voix, effectivement, j'ai tenu à développer cette activité, en partie parce que je me suis rendu compte qu'il y avait une énorme demande et que c'était quelque chose que j'aimais beaucoup faire, monter des textes, les découper, les présenter, les faire connaître aussi.
Mm-hmm.
Nous avons eu une énorme activité autour de Lire en fête l'année dernière, ce qui nous a d'ailleurs même obligés, ce qui était formidable pour nous, à étendre le groupe de
oui,
comédiens autour d'autres
à
mots.
Trouver, voilà, d'autres
et donc,
lecteurs,
en plus de Frédéric Aubry, Christian Marc et Christian Rizou, il y a maintenant Laurence Bienvenue, Olivier Clément, André Lehire, Roland Gigois, qui travaille avec la compagnie.
D'accord.
André
Lehire, des textes.
Oui, André Lehire a moi-même m'a dirigé dans Virginia Woolf le trimestre dernier.
Ah oui.
Voilà. Comme ça, j'aime bien passer de l'un à l'autre.
Oui, 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 c'est complet.
Et alors, la médiathèque José Cabanis nous a fait le grand plaisir de nous passer commande, en gros, pour 10 lectures entre septembre de cette année et octobre de l'année prochaine. Nous travaillons aussi avec la médiathèque départementale de Haute-Garonne depuis 4 ans. La médiathèque départementale de Tarn-et-Garonne nous a fait appel à nous cette année. Bon, et puis il y en a d'autres médiathèques départementales dans la région qui envisagent de travailler
donc
avec nous.
Donc c'est un projet, voilà, donc ça va voilà. S'étendre.
C'est surtout avec les bibliothèques, évidemment,
oui.
Que nous travaillons
oui.
Sur ce type de projet, éventuellement sur des festivals.
D'accord.
Ce que je peux donc dire d'autre, c'est que donc les deux prochaines lectures, comme ça arrive toujours dans notre métier, sont toutes les deux le même jour,
à
deux endroits
différents. Voilà.
Heureusement que ce ne sont pas les mêmes lecteurs.
Oui,
autrement,
mais oui, là.
Une deuxième équipe.
Tout à fait.
Alors, à Carbone, à la bibliothèque de Carbone, il y a le Tchekhov humoresque qui est un de nos, comment on appelle ça? Un de nos succès, j'ai cherché un autre mot, enfin quelque chose que nous tournons maintenant depuis 2 ans et demi, finalement.
Oui, il revient régulièrement.
Ça revient, on nous le demande.
Mm-hmm.
C'est une lecture spectacle avec 3 comédiens. Les 3 comédiens sont Christian Rizou, donc Frédéric Aubry et Christian Marc. Et c'est à 18h, le 12 mars.
Samedi 12 mars.
Et à 18h, le 12 mars à 17h, je suis moi-même à la médiathèque José Cabanis.
Donc à Toulouse, cette fois-ci, voilà. Vous êtes,
Dans le petit auditorium, qui est tout petit, donc il faut se précipiter.
Au troisième étage, je crois.
Voilà, parce que pour Virginia Woolf, on avait le petit aussi que c'était intime. Et on a refusé plus de monde que la salle ne contenait.
Ah, d'accord.
Donc il faut y être de bonne heure.
Et oui.
Et c'est une lecture en bilingue français-anglais, mais surtout en français, mais enfin avec de l'anglais, parce que je veux faire entendre la langue de Sylvia Plath, qui est un des plus grands poètes de langue anglaise américaine, qui est décédée dans les années 60, qui est extrêmement connue dans le milieu anglo-saxon, qui vient seulement d'être traduite en français ces dernières années.
D'accord.
Voilà, et c'est une lecture performance sur laquelle je suis en train de travailler.
Donc ça, c'est le 12 mars à 17h à la médiathèque José Cabanis, où donc c'est vous qui présenterez donc toute seule devant le public toulousain.
Absolument, c'est une lecture performance. C'est pas la première fois que je fais ce genre d'exercice.
Et donc j'ai vu, j'annoncerai de toute façon les prochaines dates, puisqu'il y en a une par mois à la médiathèque de Toulouse, donc j'annoncerai la date du mois d'avril et ainsi que celle du mois de mai. Et je veux juste souligner que celle du mois de mai, ça sera une lecture par vous-même aussi et en bilingue aussi, mais dans une autre langue, c'est le russe, parce que vous avez fait des études de russe et donc vous avez choisi une écrivain russe pour le mois de mai.
Oui, c'est Marina Tsvetaeva. C'est aussi une des grandes poétesses alors du XXe siècle russe, une des quatre grandes, comme on les appelait, les quatre grands, avec Boris Pasternak, entre autres, qui a écrit Docteur Jivago.
Tout à fait.
Et qui était également un poète, Mandelstam et Akhmatova. Et Marina Tsvetaeva, effectivement, est quelqu'un qui me touche beaucoup. Et je vais faire entendre le russe, la langue russe. Parce que pour la poésie, c'est clair que les traductions perdent toujours. Oh,
tout à fait. Puis la langue russe, c'est la musique, c'est...
Oui, oui, oui.
Donc, ça se prête tout à fait et vous aurez peut-être le grand auditorium.
Oui, j'aurai le grand auditorium pour ce jour-là.
Une belle performance.
Il va falloir que je le remplisse.
Oui, mais comptez sur moi pour amener et pour annoncer
ça,
tout du moins la grande.
Mai.
Voilà, oui. Ouais. Non, j'annoncerai cette date parce que moi-même j'aime beaucoup aussi la littérature russe. Donc, moi j'y serai toujours et puis j'essaierai de.
Ça, c'est une lecture que j'ai déjà fait 3 ou 4 fois. Et qui, à mon avis, pour ceux qui ne connaissent pas ce poète, ça vaut le coup de la découvrir.
Oui, bien sûr, tout à fait. Et puis ne serait-ce que pour écouter les sonorités chantantes de la langue russe, je trouve que pour les gens qui ne connaissent pas, c'est toujours intéressant de découvrir et d'écouter.
Oui.
Voilà. Mais écoutez, Anne Cameron, c'était très gentil de venir nous parler de votre métier. Vous êtes une passionnée, on peut dire.
Oui, oui, absolument.
Et donc, on aura plaisir à vous revoir très bientôt. Et en attendant, je vous laisse et je vous retrouve jeudi prochain à 9h30 sur 98.3 Radio Occitanie. Bonne semaine à tous. Vous écoutez Radio Occitanie et je vous laisse en compagnie de Bénédicte qui nous présente le flash culturel.
Radio Occitanie.
Occitanie de Zours. Les informations culturelles.
Adiciates et bienvenue à tous dans ce flash culturel du jeudi 3 mars 2005 sur Radio Occitanie.